Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Une invitée exceptionnelle pour refaire la télé aujourd'hui, une femme politique qui nous exhorte dans son dernier livre à remettre de l'amour dans nos vies.
Oui, ce qui ne devrait pas étonner l'humoriste Alison Wheeler à qui elle avait inspiré sur Canal+, un chant d'amour fraternel, un gospel.
Ségolène, ça nous a donné envie de faire quelque chose d'un peu spécial, hein, c'est gospel.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Ça marche bien.
Ça fera un bon hymne de campagne quasiment cette chanson, non?
C'est formidable.
Demandez les droits à Alison Wheeler, je ne sais pas.
Exactement. Ça reprend la fraternité finalement.
Et oui, donc il est sujet d'ailleurs dans ce livre, effectivement, blague à part, il y a presque des accents de gospel dans cet essai que vous publiez aux éditions du Rocher qui s'appelle Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu, dans lequel vous nous dites qu'il est temps de remettre de l'amour dans nos sociétés devenues dramatiquement cruelles et notamment à cause des politiques. Vous faites le constat qu'ils ne sont plus aimants.
Oui, et d'ailleurs, je ne pensais pas avoir autant raison avec ce qui se passait, parce que c'était avant le mouvement des manifestations contre la réforme des retraites. Et regardez, tout le monde s'étonne, même sur l'ensemble de la planète, de voir comment des dirigeants peuvent être heureux en voyant les peuples malheureux.
Un livre presque visionnaire, donc. Hein. On va y revenir, évidemment, tout au long de cette émission.
Oui, mais on va aussi l'offrir à nos auditeurs. Refuser la cruauté du monde et tenter donc aussi de gagner un exemplaire dédicacé par Ségolène Royal sur le compte Twitter dont refait la télé.
Ségolène Royal, ici vous allez voir, on n'est pas cruel. En revanche, on est un petit peu joueur. Et ça commence maintenant.
Archive ou archifo?
Des affirmations sur vous, Ségolène Royal. Si vous pensez que ces moments de télé ont existé, vous nous dites archive, sinon vous nous dites archifo.
Alors la première, vous avez tourné un pilote d'émission politique présenté par Jamel Debbouze qui aurait dû s'appeler Debbouze la France. Archive ou archifo?
Archifo.
Oui, c'est faux,
mais c'était une belle émission.
Pas mal.
J'ai annoncé ma candidature à la présidence.
Eh bien oui, c'est cela.
Exactement. En revanche, Jamel s'était transformé l'espace de quelques instants en journaliste politique avec vous dans le grand journal de Canal+. C'était en avril 2006.
Mais vous vous présentez aux élections présidentielles ou pas? Parce que nous, on ne sait pas, nous, finalement.
C'est au mois de septembre qu'on va décider
mais
ça.
Mais dites-le nous, là, entre nous, il y a qui? Il n'y a personne qui en...
Si ça reste comme ça, probablement, oui.
Elle a dit oui.
Évidemment, vous n'aviez pas prévu cette annonce. Hein. Vous
étiez
absolument emporté par l'euphorie et la capacité de persuasion de Jamel.
Oui, il était excellent.
Finalement, c'était presque peut-être plus efficace d'annoncer ça dans une émission de divertissement comme Le Grand Journal, mélange d'infos et de divertissement, que dans une émission politique classique, non?
Pas forcément, je pense qu'il n'y a pas de règles pour ce type d'événement important. Mais là, le hasard a bien fait les choses, finalement. Il faut aussi laisser parler son intuition quand on est dans les médias.
Bon, alors, il y a une autre femme politique qui a voulu casser les codes de la communication dernièrement. C'est Marlène Schiappa. Ça a fait grincer beaucoup de dents, cette une de Marlène Schiappa sur Playboy. Ça vous a choqué, Ségolène Royal, ou pas?
Choqué, non, mais je désapprouve. Je désapprouve pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a l'utilisation du drapeau français, ça je trouve que c'est un peu décalé. Il y a ensuite le fait de relancer un journal dont le fondateur est un sale type, qui a quand même été poursuivi et soupçonné d'organiser des soirées avec des agressions sexuelles. Et puis troisièmement, c'est un support qui transforme le corps des femmes en marchandises. Parce que c'est un support qui vend des images de femmes nues, qui est vendu pour ça.
Voilà, les photos de Marlène Schiappa sont très soft, on pourrait contester la qualité artistique, mais elle reste très habillée.
Oui, mais enfin, le fait même de dire, et j'ai entendu plusieurs ministres dire, non mais rassurez-vous, elle n'est pas toute nue. Non mais c'est du délire là, allô la terre là, où on est. Ils sont en train d'expliquer que c'est bien parce qu'elle n'est pas toute nue. Non mais vous vous rendez compte, même pour elle, comment est-ce qu'on peut? Et puis elle est mère de famille, alors comment on peut dire après aux petites filles, mais écoutez, respectez-vous, ne vous déshabillez pas sur les réseaux sociaux, si vous avez une femme ministre qui pose dans un journal où il y a des femmes nues et qui est vendue pour ça? Non.
Elle a dit qu'elle fait sauter justement un tabou, que c'est sa liberté de femme.
Eh bien moi je suis pour les tabous, figurez-vous. Je suis pour les bons tabous. Parce que ce mythe qui consiste à dire qu'il n'y a pas de tabou, c'est la loi du plus fort, c'est le grand n'importe quoi, c'est l'absence de limites, mais non. Il y a des bons tabous et il y a des mauvais tabous. Et celui-là, c'est un bon tabou. Le fait de dire non, je ne vais pas dans un journal qui vend le corps des femmes comme une marchandise. Et en plus, elle est ministre.
Ça vous fait au moins un point commun avec Elisabeth Borne, qui n'a pas du tout aimé. Elle a fait savoir à l'intéressée qu'elle n'avait pas apprécié. En parlant de la première ministre...
Oui, connaissant le fonctionnement interne de Matignon et des ministères et le contrôle de Matignon sur toutes les décisions de communication, J'ai du mal à croire qu'une décision de communication de cette importance n'ait pas été validée par les responsables de la communication, peut-être pas par la première ministre, mais par les responsables de la communication de Matignon. C'est pas la peine après de jouer les effarouchés.
Allez, autre archive ou archi faux.
Alors un steward qui explique à la télé avoir eu un moment très gênant avec vous dans un avion, Ségolène Royal. Archive ou archi faux.
Le doute s'est installé.
Le doute s'est installé.
Et ben c'est vrai.
Oui.
Eh oui. Ce moment embarrassant, surtout pour lui, il l'a raconté à Jean-Luc Reichmann dans les 12 coups de midi sur TF1.
Figurez-vous, Jean-Luc, que je me suis retrouvé face à Madame Royal, Ségolène Royal, avec la braguette ouverte, en lui servant un thé. Il y a de ça déjà 2 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé?
L'embarquement avait commencé, vu que je suis steward. Et malheureusement, vu que je suis un peu dispersé, parfois, j'étais dans les toilettes au moment de l'embarquement. Mes collègues avaient oublié de me prévenir. Et au moment où je suis sorti, elle était devant moi. Elle m'a demandé quelque chose. Je lui ai servi un thé. Et en effet, je me baisse et je vois que j'avais la braguette très très grande ouverte, malheureusement. Et elle m'a fait la réflexion très poliment et je lui ai dit, vous inquiétez pas, mes mains sont propres, elle, il n'y a pas de souci là-dessus.
Oh mais quelle bonne répartie. C'est quand même royal, vous vous souvenez de ce steward?
Il en rajoute, parce que je n'ai pas les yeux baladeurs, parce que je ne m'en souviens pas.
Moi, il dit même que vous l'avez fait remarquer. Alors, c'est peut-être son fantasme qui a parlé, moi je sais pas.
C'est son fantasme qui a parlé. Il en rajoute un peu, c'est rigolo en tout cas.
Plus sérieusement, l'avion dont on parlait dans cet extrait, mode de transport de plus en plus vilipendé par les écolos pour son empreinte carbone. Votre avis sur la question, vous qui nous rappelez dans ce livre, l'urgence climatique. Il faut arrêter de prendre l'avion ou pas, Ségolène Royal?
Non, pas de façon aussi radicale, bien évidemment, parce qu'il y a comme des déplacements qui sont absolument nécessaires. Mais cela dit, il y a beaucoup de déplacements qui pourraient être remplacés par des liaisons vidéo. On le voit dans les grandes réunions internationales, par exemple, où franchement, parfois, ce serait plus efficace d'avoir des réunions de travail, même que tout le public pourrait suivre.
En direct, en vidéo, direct, sur Internet.
En voyant les leaders des
c'est
différents
pas le
pays.
Cas maintenant
ou des maintenant, parce qu'on se réunit, même la COP21, ouais. Combien de fois les conférences climat, combien de fois j'ai dit, mais déplacer 50 000 personnes dans un lieu unique. Et ça a été beaucoup critiqué l'année dernière, il y avait la COP à Glasgow, tous les chefs d'État sont venus en jet pour faire des discours. Après, il y a un problème de cohérence.
Ségolène Royal, on va continuer à refaire votre télé en revenant maintenant sur ce qui a sans doute été l'émission de télé la plus importante de votre vie. Votre face-à-face avec Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2007. On a été quelques 20 millions à regarder ça. On veut tout savoir maintenant des coulisses de cet événement. Il y a prescription. Vous pouvez tout nous raconter. C'est
d'accord.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. 12h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Ségolène Royal, nous allons donc maintenant revenir en 2007 sur cette émission de télévision absolument capitale pour vous.
Le 2 mai 2007, vous affrontez Nicolas Sarkozy dans le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle devant plus de 20 millions de téléspectateurs. La pression avant le direct, c'était terrible, non?
Non, figurez-vous.
C'est vrai, vous avez bien dormi la nuit qui a précédé le débat.
Vous étiez tellement bien préparé.
On n'est jamais vraiment bien préparé parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se dérouler. On travaille toujours trop, d'ailleurs.
On prépare trop, on arrive avec quoi? 15 kilos de fiches.
Oui, on vous fait, vos entourages vous font 15 kilos de fiches, alors qu'en fait, il faut toujours revenir à vos fondamentaux.
C'est vrai que vous aviez fait exprès de demander une température élevée dans le studio de ce débat pour que Nicolas Sarkozy transpire et ait l'air mal à l'aise?
J'ai entendu ce récit, mais vous savez, les collaborateurs, il faut toujours...
Il y a même deux journalistes aussi présents sur place.
Et oui, mais peut-être que c'est dans mon équipe, peut-être que quelque chose comme ça a été demandé. Paraît-il que Julien Drey aurait demandé ça, mais vraiment à mon insu. Vous savez, on a 1000 choses à quoi penser sur le fond de ce qu'on va dire, qu'à penser à la température du studio. Donc ça, c'est vraiment des imbécilités des entourages. Mais vous ne maîtrisez pas tout, vous savez, dans les entourages. C'est ce qui fait leur charme, d'ailleurs.
Nicolas Sarkozy, ce jour-là, ce jour du débat, vous ne le voyez pas avant d'arriver en plateau. Hein. Je crois que ce genre de dispositif, tout est fait pour que les candidats soient diamétralement opposés dans le bâtiment. En revanche, après, vous vous voyez, après ce débat?
Non, non plus.
C'est-à-dire l'ambiance?
On sort séparément et il y a ces deux images télévisuelles qui s'entrechoquent. Nicolas Sarkozy qui est assez dépité, qui dit « j'ai pas réussi », etc. Et moi, toute heureuse, applaudie par mes proches. Et c'est ensuite que les sondages se retournent dans la nuit.
On va revenir là-dessus parce que tout part en fait d'un moment très fort.
On va réécouter l'un des moments les plus forts de ce débat. C'est bien sûr votre coup de colère alors qu'il est question de la scolarisation des enfants handicapés.
Cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Alors. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous
calmez-vous.
Et les parents... Non,
calmez-vous,
je ne me calmerai pas.
Ne montez pas du doigt avec cet index pointé parce que franchement...
Non, je ne me calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non. pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à
Madame
la souffrance
Royale,
des gens.
Est-ce que vous me permettez
Il y a des
de
colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République,
parce que je sais...
C'est la séquence que tout le monde a retenue de ce débat, Ségolène Royal. Mmh. D'abord, positivement, pour vous, mais vous expliquez que très vite, en fait, l'opinion se retourne grâce à la machine de communication de Nicolas Sarkozy.
Oui, je le pense.
Ça consiste en
quoi ? En tout cas, ça a été observé aussi par des analystes étrangers. Quand je sors du débat, tout le monde a pensé que j'avais gagné ce débat, et même sur les médias internationaux. Et ensuite, la machine de Nicolas Sarkozy est assez puissante, parce que c'est là dans la nuit où il y a un sondage qui sort et qui dit que j'ai raté le débat, et cette séquence, effectivement, qui est mise en exergue.
Alors, c'est quoi cette technique de communication alors ? C'est-à-dire qu'il a fait jouer son réseau, d'après vous ?
Non, je pense qu'il sort des sondages et en fonction de la nature des questions que vous posez, vous orientez un sondage. On le voit à toutes les élections d'ailleurs, ça. C'est une bonne idée d'ailleurs d'avoir ressorti cet extrait aujourd'hui. Nous sommes plongés dans une grave crise de maltraitance des enfants dans les crèches. Moi, ça me révolte quand j'entends ça. Ça me fait monter les larmes aux yeux parce que j'imagine mes propres enfants ayant subi ça. C'est absolument abominable. Vous avez des enfants frappés, des enfants qui n'en donnent pas à manger, des enfants qu'on laisse dans leurs excréments toute la journée, des enfants qui sont attachés.
Un scandale assez comparable à celui qu'on a connu avec les EHPAD.
Exactement, des personnes vulnérables. Aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Est-ce que vous avez entendu le président de la République ou la première ministre dire quelque chose ? Non. Mais c'est quand même extravagant. Je serai présidente de la République, mais c'est la première chose dont je me serai occupée et sur laquelle j'aurai immédiatement réagi pour demander des sanctions, pour demander la fermeture des établissements qui ont été ainsi visés et pour demander qu'on rétablisse les normes de protection que j'ai connues moi étant ministre de la Famille. C'était impensable puisque les crèches étaient soit municipales soit publiques. Donc il y avait un taux d'encadrement d'un adulte pour 6 enfants. Et aujourd'hui, avec la privatisation une fois de plus des crèches, comme il faut dégager du profit comme dans les Orpéas, dans les EHPAD, et bien comment vous dégagez du profit pour payer les actionnaires ? Ben vous réduisez les dépenses, donc vous maltraitez les gens.
Je reviens à ce débat, Ségolène Royal. Oui. Si Nicolas Sarkozy arrive à retourner l'opinion, c'est qu'in fine, il a une meilleure équipe de communication que vous à ce moment-là ?
Il a une très bonne équipe de communication. Et surtout, les gens font bloc autour de lui. Vous n'avez pas une personne dans l'entourage de Nicolas Sarkozy qui dit du mal de lui, pas une.
Vous auriez aimé bénéficier de cette cohésion autour de vous.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'avec une très forte cohésion autour de moi, bien sûr que c'était gagnable, oui.
Alors ce soir-là, Nicolas Sarkozy tente aussi de vous déstabiliser en citant à plusieurs reprises ce nom pendant le débat.
Quand M. Hollande annonce une CSG pour payer les retraites.
François Hollande, dont vous êtes en train de vous séparer à ce moment-là, Ségolène Royal, mais ça, au moment de ce débat, ça nous, on ne le sait pas.
Je ne suis pas en train de me séparer, non. Enfin,
Vous êtes séparés, en tout cas, l'opinion ne le sait pas encore.
L'opinion ne le sait pas, je l'ai caché aussi.
Enfin, Nicolas Sarkozy, lui, il est au courant. Il le fait pour vous déstabiliser ?
Sans doute, oui. Sans doute. Parce que Nicolas Sarkozy aussi était dans une position délicate par rapport à sa femme. Mais vous voyez la différence entre un homme et une femme, une fois de plus. C'est qu'un homme, il peut parler de sa vie privée, on va dire le pauvre. Une femme, si j'avais dit la moindre chose, on aurait dit, okay, elle est fragilisée, ben vous voyez, tiens, ça ne va pas du tout, ben vous voyez comment elle va faire. Voilà.
Mais quand il le fait, vous trouvez ça déloyal ou pas ?
Je ne me rends pas compte à ce moment-là qu'il le fait pour ça. J'ai compris après.
Cette séparation, vous l'annoncerez quelques semaines plus tard par un communiqué. Là, on se dit, quelle force a eu cette femme pour affronter simultanément la pression d'une présidentielle, tout ce que ça représente, et la fin d'une histoire de 30 ans.
Bah c'est difficile, mais j'ai tenu bon. Ça prouve que j'ai au moins une force intérieure et une capacité de résistance, parce que c'était que j'étais trompée pendant la campagne, disons, pour les choses claires, et que les Français ne l'ont pas vu à ce moment-là, heureusement, parce que je protège à la fois les Français et je protège mes enfants farouchement. Mais ça prouve que d'abord c'était une certaine époque. Aujourd'hui, je pense que ça ne se referait pas de cette façon-là, parce que jamais je me laisserais traiter de cette façon-là. Mais je regrette rien parce que j'ai protégé ma campagne, j'ai protégé mes enfants et j'ai protégé les Français d'une certaine façon.
Refuser la cruauté du monde, c'est aux éditions du Rocher. On en parle jusqu'à midi et demi et on va maintenant vous soumettre à notre quiz de l'info télé. Je ne sais pas si vous suivez l'actu des médias, Ségolène Royal.
Ça m'arrive.
Oui, bon, on va voir ça tout de suite. Eva Cruyver va vous faire passer un petit test. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
On refait l'actu télé.
Et comme tous les samedis, on refait l'actu télé de la semaine avec Télé Loisirs et Eva Cruyver. Bonjour Eva.
Bonjour tout le monde, enchantée.
Bonjour Eva.
Ségolène Royal, vous avez été ministre déléguée à l'enseignement scolaire. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, on inverse les rôles. Vous allez devenir élève. Interro oral sur les infos télé de la semaine. Oula, comme vous le dites. Il suffit de nous dire si vous croyez ou pas aux infos ou attention, parfois aussi aux intox que Jade va vous donner.
Oui. Jarry sera le prochain invité de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2. L'humoriste partira à Vannes. Vous y croyez ou pas?
Moi, mon intuition, c'est que oui.
Alors, non, c'est non. Faux. Il y avait quand même de l'idée dans cette destination, mais il partira pas à Vannes, mais beaucoup plus loin, au Groenland. Raphaël de Casabianca l'a emmené rencontrer les Inuits à 1300 km du pôle Nord pour découvrir l'un des villages autochtones les plus isolés de la planète. Alors, la destination n'avait au premier abord pas vraiment séduit Jarry, mais il faut dire que ça faisait longtemps qu'il voulait faire l'émission. Alors, pour voir Jarry faire des vannes dans un froid glacial, rendez-vous le mardi 2 mai sur France 2.
Vous, le Groenland, vous y êtes allé naturellement,
oui,
Ségolène Royal.
C'est sublime. C'est
ambassadrice d'épaule.
Oui.
Sublime, mais aussi situation dramatique.
Hein, difficile.
Dérèglement climatique qui entraîne, alors ça, je l'ignorais, aussi de la pollution, parce que la fonte des glaces fait qu'il y a de plus en plus de bateaux.
Et puis du méthane qui s'échappe de la glace qui fond. Non, c'est un vrai problème. Et puis plus, bien sûr, ça libère aussi les capacités d'exploitation des sous-sols, du sous-sol, et donc une ruée vers le Groenland qui doit absolument être maîtrisée.
Jarry, bientôt donc dans Rendez-vous en Terre Inconnue. Jarry également animateur sur France 2, le Big Show, c'était mardi soir. Une émission où il y a beaucoup de surprises, ce qui n'est pas sans nous rappeler surprise, surprise. Vous, surprise, surprise, vous avez connu ça, hein, Ségolène Royal.
Oui.
Vous aviez eu un scénario incroyable. Rappelez-nous ce que c'était.
J'étais dans un garage, c'est ça. Et tout d'un coup, j'étais dans une voiture, ma petite voiture. Et je suis, comment dirais-je, le support monte.
Ouais. Pour réparer la voiture, vous vous retrouvez bloqué là.
Et je me suis trouvé bloqué en haut. Et à ce moment-là, des soi-disant réparateurs de voitures viennent et commencent à danser. Et à se déshabiller.
C'était chaud, hein. J'ai vu les images, c'était striptease.
Jusqu'à certaines limites. Devant moi, c'est là que j'ai compris.
C'est ça, vous avez compris quand même assez vite que c'était une caméra cachée.
Oui, c'est assez drôle.
Allez, autre info télé à vérifier.
Marine Le Pen comparait pendant une interview à un humoriste de l'émission LOL qui ressort. Ségolène Royal, vous y croyez ou pas?
Oui.
Vous connaissez déjà cette émission?
Non, je n'ai pas vu.
Eva va tout nous dire.
Je vous le conseille. Mais oui, vous avez raison, c'est vrai. Ça s'est passé mercredi matin sur BFM Télé. Apolline de Malherbe a comparé Marine Le Pen à Paul Mirabel, l'une des têtes d'affiche de la nouvelle saison de l'émission LOL qui ressort.
Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu LOL? LOL, c'est cette série qui cartonne sur Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft. Et la règle, c'est que si on rit, on sort. Et vous me faites penser à Paul Mirabel. Paul Mirabel, c'est cet humoriste qui ne fait rien. Il est passe-partout, il fait de temps en temps une petite pitchnette pour faire tomber un adversaire, et sinon il ne prend aucun risque, et ça marche. Mais c'est peut-être ça votre stratégie, pas faire grand-chose quoi.
Mais je ne vous autorise pas à dire cela, car c'est totalement faux.
Un peu de fantaisie en interview, ça fait pas de mal, non Ségolène Royal? On voit bien que les interviews politiques attirent de moins en moins de téléspectateurs, pourquoi
d'après
vous? Oui,
c'est vrai, parce qu'il y a la langue de bois, il ne dit plus grand-chose. Donc
les éléments de langage, chacun
les éléments de langage.
Éléments de langage. Vous faites attention à ça, à pas être
moi, je fais attention à
pilotage
ça.
Automatique.
Oui. Je fais attention à ça parce que je pense qu'il y a une intelligence populaire chez les citoyens et qu'il faut les mettre dans la confidence. Vous voyez, pour faire avancer un pays, il ne faut pas leur imposer votre point de vue, penser que parce que vous êtes faites partie d'une certaine élite, vous pensez mieux que les autres. Non, il y a une intelligence populaire bien souvent qui surprend et qui, si elle n'est pas écoutée, conduit à des décisions politiques à côté de la plaque.
Des centaines d'interviews, peut-être des milliers, vous avez dû faire depuis le début de votre parcours politique, Ségolène Royal. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur des journalistes complètement à côté de la plaque, pas du tout au fait de leur sujet?
Oui, bien sûr.
On fait comment dans ce cas-là? On prend le contrôle?
On espère que ça passe. Non, on reformule les questions. Peut-être que vous vouliez me poser cette question.
On fait question-réponse.
Oui, c'était ça que je voulais dire.
L'extrait qu'on vient d'entendre, c'était sur BFM TV où vous avez été chroniqueuse, Ségolène Royal. Ils vous ont réinvité depuis votre brouille de septembre où vous êtes toujours fâchée avec BFM TV.
Non, ils ne m'ont pas réinvité.
Donc ils sont toujours fâchés après vous?
Sans doute.
Et vous pas?
Non. Moi pas. Ils sont dans une compétition entre chaînes infos, c'est absurde.
On rappelle brièvement ce qui s'est passé, des propos jugés maladroits par beaucoup, y compris par vous, sur les crimes de guerre commis en Ukraine. Mmh. Vous vous en excusez alors que c'est
propos... Non, je vais surtout donner une explication sur une chaîne
sur
concurrente.
LCI, alors que vous êtes chroniqueuse sur BFM TV. En même temps, il n'y a pas idée, Ségolène Royal.
Si, parce que j'avais déjà donné une explication sur BFM. Je n'allais pas rentrer dans leur logique de compétition entre chaînes. Je trouvais ça absurde. Mais tant pis, ils prennent leurs responsabilités.
Au moment où ils vous appellent pour vous dire c'est terminé, vous êtes surprise ?
Ben oui, je suis quand même étonnée. Oui, mais c'est pas grave. C'est leur choix. Hein. Ça, je respecte tout à fait ce choix. J'ai fait le choix parce qu'ils me l'ont dit avant. Ils m'ont menacé avant. Donc, si vous allez sur LCI, vous venez plus sur BFM. Ah, donc, je dis, ah ben, raison de plus. Alors, je vais aller sur LCI. Qu'est-ce que c'est que ces menaces ? Ah oui, ils me l'ont dit avant.
Vous avez un contrat avec eux en même temps, ça peut s'entendre ?
Non, j'ai absolument aucun contrat d'exclusivité. Non.
Et on ne dicte pas à Ségolène Royal ce qu'elle doit faire, visiblement.
Bah non, il y a quand même une liberté d'expression, puis il y a une liberté des journalistes et des supports journalistiques pour aller où on a envie d'aller. Ça va de soi.
Maintenant, il faut donc, compter avec le fait que vous ne pouvez plus aller sur BFM TV. Quoi.
Mais c'est pas grave, tant pis pour eux.
Pas tant pis pour vous, c'est puissant quand même comme chaîne.
Non, mais tant pis pour eux. Je sais pas. Je suis sur RTL, on refait la télé, c'est beaucoup plus important.
C'est pas moi qui vous dirai le contraire.
Ça c'est bien, on va l'extraire cette fois.
Allez, dernière info télé ou dernière intox.
France 3 proposera bientôt une nouvelle édition de son grand concours des régions après l'élection de la meilleure danse folklorique de France. Place cette fois au meilleur fromage de France. Ségolène Royal y croit-elle ?
Non. Parce qu'ils sont tous tellement bons.
C'est trop difficile.
Eva, non, c'est faux, vous avez raison. Il s'agira de nouveau d'élire la meilleure danse folklorique régionale. Le programme, toujours animé par Cyril Ferraud, sera diffusé le vendredi 5 mai sur France 3. Et ce sont Vincent Niclot, Caroline Margueridon, Laurent Luyat et Maréva Galanter qui ont été choisis pour former le jury. Au menu, depuis la scène du Royal Palace, le célèbre cabaret situé en Alsace, 10 troupes amateurs et près de 300 danseurs. Chaque troupe sera évaluée sur la technique, la chorégraphie et les costumes régionaux.
Les danses poitevines, vous maîtrisez Ségolène Royal ? Vous qui avez été députée des Deux-Sèvres pendant 20 ans, présidente...
Oui, je me suis même habillée quand j'étais députée des Deux-Sèvres en poitevine, avec la coiffe poitevine.
Ah, c'était un mail, hein.
Au festival du Chabichou du Poitou, dont j'avais fait l'appellation d'origine contrôlée avec les éleveurs.
Oh bah, écoutez, évidemment qu'on n'allait pas passer à côté de ça. Assemblée nationale, 1990.
Le Chabichou, chanson de 1914, il est de tous les grands festins, chez les pauvres comme chez les rupins, chers collègues, puisque Chabi, nous sommes poitevins. C'est lui qui, grâce à son odeur, a porté le Poitou à l'honneur. Nos braves Chabis pendant la guerre ont repoussé l'ennemi hors de la frontière.
Le Chabichou vous doit beaucoup, Ségolène Royal.
Oui, réciproquement. Non, il fallait aussi quand même défendre les terroirs, les territoires.
C'était précurseur à l'époque,
en 90. Oui. Ouais. Oui.
Merci beaucoup, Eva Gruyère, pour rester dans le thème.
Ce serait plus avec plaisir, Éric Chéda.
C'est pas mal. C'est justement, voici maintenant la question fromage ou dessert. On reste à table.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Fromage ou dessert ?
Bon alors Ségolène Royal, on a déjà parlé du fromage avec le Chabichou. Mmh. Un mot des desserts dans le livre, hein, vous nous parlez du lait de poule de votre enfance.
Oui.
Vous nous rappelez la recette ?
Alors le lait de poule, c'est un jaune d'œuf que vous battez et vous mettez du lait dedans, du lait chaud et du miel.
Vous êtes prête pour Top Chef.
Et avec ça, vous tenez toute la journée d'école.
Vous dites aussi que quand vous étiez petite, vous aviez l'habitude de manger de la soupe d'ortie.
Oui.
Ce qui vous a rendu si piquante.
Voilà. Pas mal.
Alors, voici venu l'heure du choix. Salé ou sucré ?
Alors, deux questions différentes. Regardez ce cache dans ces enveloppes. Une fromage, une dessert. Laquelle choisissez-vous ?
Fromage.
Et cette question est ?
Et cette question est ? Une émission de télé que vous regrettez d'avoir faite.
Votre réponse dans 2 minutes. RTL, il est midi.
Et nous sommes toujours avec Ségolène Royal pour son ouvrage paru aux éditions du Rocher, Refuser la cruauté du monde.
Vous allez maintenant devoir répondre à la question que vous avez tirée au sort juste avant les infos. Ségolène Royal, cette question était...
Une émission de télé que vous regrettez d'avoir faite. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir.
Donc vous n'avez pas de mauvais souvenirs.
Je n'ai pas de mauvais souvenirs.
Tant mieux,
c'est bien. J'ai des mauvais souvenirs de certaines émissions, mais... Ça ne m'est pas resté, au fond.
Je me souviens d'une émission de Canal+, le supplément que vous aviez quitté.
Je ne me souviens plus, oui.
Ouais, que les sujets étaient beaucoup trop sarcastiques. Vous pouvez quitter un plateau comme ça, Ségolène Royal, peu importe les conséquences.
Je Je ne me souvenais plus avoir quitté le plateau, mais je ne faisais pas une bonne idée de quitter un plateau. Il vaut mieux avoir une capacité de répartie. Mais il y a certaines émissions d'enquête que j'ai refusé d'avoir faites, parce que vous savez, on vous interroge pendant une heure, puis vous avez trois phrases qui sortent, et on vous fait parfois dire le contraire de ce que vous avez voulu dire sur un temps plus long. Et ça, maintenant, je refuse de les faire. À chaque fois que je l'ai faite, j'ai regretté, parce qu'en regardant l'émission, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire.
On retient que l'accessoire, c'est monté, réduit.
Oui, c'est ça,
réduit.
C'est monté, c'est réduit, on sort trois phrases. Or, la politique, c'est quand même subtil, quoi. C'est pas réduit. Si on sort trois phrases d'un entretien d'une heure, forcément, c'est décevant.
Ségolène Royal, on va maintenant revenir sur l'un de vos coups d'éclat médiatique. Votre royal baby, en quelque sorte, vous aussi.
La médiatisation de la naissance de votre fille, Flora, en juillet 1992. On se souvient de photos à la maternité ou encore de ce sujet aux 20h de France 2.
À la rubrique Carnet Rose, permettez-moi de vous annoncer la naissance de Flora, le quatrième enfant de Ségolène Royal. La maman et le bébé se portent bien.
Sa maman est ministre. Flora ignore encore que c'est une première dans l'histoire de la République. Un bébé d'un jour, une petite fille qui fait déjà sa première télé.
J'ai hésité, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est en même temps une vie privée, donc auquel on a droit, mais en même temps c'est vrai que c'est assez exceptionnel et je le fais aussi pour la cause des femmes. Parce que je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est précisément à l'heure où les femmes accèdent à des responsabilités importantes, de pouvoir concilier à la fois leur vie maternelle, affective, familiale et professionnelle.
Avec le recul, vous le referiez ça ou pas ?
Oui. Parce que vous savez, j'étais critiquée, bizarrement d'ailleurs, par certains journalistes qui m'avaient sollicité pour faire les photos, etc. Et quand ça n'avait pas été dans leur journal...
Ah, ils ont été jaloux en fait, après ils sont vengés.
Oui. Et non, je ne regrette pas.
Vous avez toujours
parce que
c'est
tellement beau, une naissance d'abord. Et que jusque-là, vous avez remarqué que les femmes, soit les femmes actrices ou les femmes de pouvoir, cachaient leur grossesse. C'est Brigitte Bardot d'ailleurs qui raconte ça en disant « j'ai dû cacher ma grossesse parce que je ne savais pas comment j'allais concilier mon image de femme actrice et mon image de mère ». Et toutes les femmes en responsabilité, y compris dans le monde du travail, sont obligées de cacher leur grossesse pour justement qu'on ne se dise pas « ah ben maintenant qu'elles ont un enfant dans l'utérus, elles n'ont plus rien dans le cerveau ». Je la fais courte, mais c'est quand même
un peu ça, oui.
Et je ne voulais pas que l'on puisse penser que j'avais un choix à faire.
Vous avez toujours eu cette volonté, hein, Ségolène Royal, de sortir de la communication classique. On pourrait aussi citer votre fête de la fraternité en 2008, quand vous aviez scandé ce mot fraternité avec la foule, ce qui vous avait valu de nombreuses critiques à l'époque. Hein. Dans le livre, vous le dites, hein, ça vous a beaucoup blessé, ces critiques.
Oui, bien sûr, c'est très blessant. Mais vous savez, c'est des critiques d'une petite élite, en fait. Parce que les gens, les 5000 personnes qui sont venues à la fête de la fraternité, elles étaient très heureuses. C'est les gens, ils n'ont pas l'esprit mal tourné, ils voient les choses positives. C'est les jaloux qui ont l'esprit mal tourné. Surtout qu'après on a raconté, je ne sais pas, que je m'étais relookée, bah pas du tout, je enfilais une tunique que j'avais achetée, je ne sais plus où, dans une friperie de indienne.
Oui, parce que c'était devenu dans la presse, elle a eu une réflexion par rapport à son look, dernière minute, la tunique bleue.
Alors que non, c'était simple, c'était joyeux. Et vous voyez, il y a quand même une continuité dans ce que j'écris, ce que je porte, parce que dans...
Vous
dans
en parlez, la fraternité.
Ben, oui, pourquoi ? Parce que la politique aimante...
Valeurs souvent oubliées.
La politique aimante, c'est la politique de fraternité. On a la liberté, l'égalité, la fraternité, et c'est souvent la fraternité qui est oubliée. Or, c'est ça qui met du lien entre les gens.
Bon, Ségolène Royal, le meilleur moyen d'oublier toutes ces tensions, c'est de se détendre devant la télé. C'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez nous dire ce que vous aimez regarder ou pas à la télévision dans les programmes des prochains jours.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussart.
Chère Ségolène Royal.
Mes chers compatriotes, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous, Michel Drucker, puisque vous me faites cet honneur ce dimanche. Et de parler évidemment de mes envies vis-à-vis des 5 ans de mon boulot de dans 5 ans. Hein, vous êtes au courant.
Alors non, ce n'est pas vous, hein, Ségolène Royal, mais Liane Folly qui vous imitait.
Oui.
Face à vous d'ailleurs, chez Michel Drucker. Vous vous reconnaissez dans son imitation ? Est-ce que
oui,
ça vous
je
fait
trouve que c'est... D'abord c'est affectueux, c'est amical.
Et elle a attrapé votre rythme.
Et elle a attrapé mon rythme un peu, oui, oui.
Souvent imité, on se souvient de votre marionnette dans Les Guignols, pour reprendre le titre de votre livre « Refuser la cruauté du monde ». Pour le coup, c'était souvent cruel cette caricature des Guignols à votre endroit, Ségolène Royal. Ça vous faisait parfois de la peine ?
Oui, bien sûr, c'est très cruel les caricatures. Mais ce qui est encore plus cruel, c'est les caricatures des hommes politiques qui sont là quand vous êtes dans le combat politique. Les Guignols, ils ont le droit à faire de l'humour, finalement, et de l'auto et de la dérision.
Vous les regardiez ?
Ça m'arrivait, oui, bien sûr.
Et
oui,
alors,
oui.
Quand vous voyez à l'écran, du moins, votre représentation ?
Ça me faisait rire, d'une certaine façon, même si je ne me reconnaissais pas, parce que, vous savez, c'est exactement la reprise, un peu sexiste, de la gourde. Et les communicants, d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy ont expliqué après qu'ils avaient inventé ça. Elle fait des bourdes parce que ça rimait avec gourde.
Ils avaient imaginé une communication.
Une communication là-dessus. Et chaque fois que je disais quelque chose, même si c'était tout à fait sensé, c'était « elle a encore fait une bourde ». Et ça avait été travaillé par les communicants de Nicolas Sarkozy parce que bourde, ça rime avec gourde. Et donc, j'avais aussi la bécassine, etc. C'est-à-dire cette espèce d'attaque sur mon niveau intellectuel. Alors que la plupart des hommes qui m'agressaient de cette façon-là, j'avais les mêmes formations qu'eux et surtout beaucoup plus d'expérience politique qu'eux déjà au moment de la campagne présidentielle.
Les Guignols avaient donc repris quelque chose qui avait infusé en fait dans la société du fait de cette communication.
Ça a infusé.
Vos enfants, ils sont pour certains en âge de comprendre à ce moment-là, au moment des Guignols, oui. Des attaques parfois violentes dans les Guignols. Eux, ils vivent comment quand ils vous voient à la télé, entendent parler à l'école ?
Je pense que c'était un stressant pour eux. C'était une angoisse pour eux. Donc moi, ma responsabilité à l'égard de mes enfants, c'était de faire comme si toujours, toujours tout allait bien. Parfois, ils me le reprochaient après, d'ailleurs, en me disant « mais t'aurais dû nous dire quand c'était dur, etc. » Mais ils voyaient quand même bien quand c'était difficile. Mais ma responsabilité, toujours, ça a été de protéger mes enfants contre les conflits, contre les attaques.
Garder le cap.
Garder le cap, etc. Je raconte dans mon livre, d'ailleurs, même que mon domicile a été mis à sac à plusieurs reprises.
Mais alors ça, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Ah, oui. Vous dites dans votre livre que votre domicile a été saccagé par, vous expliquez,
à trois reprises,
des barbouzes.
Des barbouzes.
Des gens qui viennent, en fait, pour vous intimider.
Oui, c'est ça. Parce que les plans de mon appartement ont été retrouvés chez le préfet Squarcini, qui était le directeur du renseignement sous Sarkozy.
L'objectif, et qui c'était quoi ? Que vous abandonniez ?
Suite à ça, il y a une perquisition chez lui. Ils ont retrouvé les plans de mon appartement. Donc ça, c'est extrêmement violent. Et moi, je me suis toujours tue quand j'ai jamais parlé des épreuves que j'ai subies parce que je me disais que ça va donner d'idées à des dingues qui vont faire la même chose ou qui vont penser que je suis vulnérable.
Qui donc était à l'origine de cette tentative d'intimidation, cette visite ?
Je pense que c'est les troubles qui sont autour de mon adversaire politique du moment.
Objectif, vous faire peur ?
Faire peur.
Ça ne marche pas.
Ça marche pas, mais c'est quand même violent parce que je retrouve les ordinateurs par terre, donc rien n'est volé, toutes les armoires sont vidées, tout est vidé sur le lit. Et dans la chambre de mes filles, il y a sur leur lit aligné leurs petits objets, petits jouets comme ça pour dire à la sicilienne, quoi, on peut revenir quand on veut. Donc c'est quand même extrêmement violent. Et la deuxième mise à sac, le procès verbal de la première mise à sac était posé au-dessus du tas d'objets. Et je me souviens, donc j'appelle la police, le procureur de la République vient, et je vois dans son regard et dans ses questions qu'il pense que c'est moi qui ai organisé, vous voyez,
un coup de com',
ouais, qui ai mis en scène cette opération. Il a bien vu de toute façon le saccage qu'il y avait, et de toute façon, jamais j'ai alerté la presse.
La chaîne TV5 vous a interrogé il y a quelques jours sur votre éventuelle candidature, on en parle déjà, à la présidentielle de 2027. Et vous avez répondu ceci: je ne m'interdis rien, mais le moment n'est absolument pas venu. Quand ce moment viendra-t-il ?
Je ne sais pas s'il viendra, mais je ne m'interdis rien.
L'envie, elle est toujours là ?
Mais ça ne se pose pas en envie, si vous voulez. Ça se pose en termes de moments historiques.
Vous l'avez entendu, il y a une petite musique ces derniers jours, celle du remaniement. Si Elisabeth Borne venait à partir maintenant, elle l'aurait fait à peine plus long qu'Edith Cresson, 10 mois et quelques jours. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, les femmes sont toujours les premières sacrifiées ?
Non. Il ne faudra pas mettre ça sur la responsabilité ou essayer de trouver une excuse.
Et c'est vous qui nous le dites.
Et c'est moi qui vous le dis. Oui. Vous voyez, parce que je ne veux pas que l'instrumentalisation du fait d'être femme serve à excuser une mauvaise gouvernance. Ça, c'est pas juste parce que c'est pas bien pour les autres femmes. D'une certaine façon, de laisser penser ça.
Elisabeth Borne, comme on dit, vous ne partirez pas en vacances ensemble. Quelle est méchante, avez-vous déclaré dans le monde à ce point-là ?
Non, mais je ne vais pas dire du mal
C'est fait,
à la chef du gouvernement. Non, mais c'est fait. Je discute à bâton rompu, ça a été repris. Il faut interroger ses équipes.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ? Parce que vous avez travaillé pendant des années ensemble.
Oui, figurez-vous, parce que j'ai rencontré quand elle était préfète de Poitou-Charentes. Travailleuse, etc. Je suis nommée ministre, elle m'appelle, me fait passer un message disant qu'elle va être ma directrice de cabinet. Et donc je la prends comme directrice de cabinet. Et c'est vrai qu'elle est quand même très dure en relationnel pour les équipes, c'était pas facile. J'ai retrouvé plusieurs fois des conseillers pleurer. Donc c'était pas facile. Elle a d'autres qualités, cela dit, mais c'était pas simple.
Ségolène Royal, on a très envie maintenant de découvrir vos goûts de téléspectatrice.
Le plateau télé de l'invité.
On vous propose des programmes télé, Ségolène Royal, vous faites votre choix, bien évidemment. Par exemple, ce soir, est-ce que vous auriez plutôt envie de regarder The Voice sur TF1 ou une émission de Patrick Sébastien sur C8 ?
The Voice.
On regarde The Voice.
Je regarde The Voice.
Vous suivez vraiment toutes les semaines ?
Non, pas toutes les semaines, non. Non.
Mais en tout cas, c'est une émission que vous regardez régulièrement.
Avec des amis en plus, donc on s'amuse. On...
Ah, vous faites des paris ?
Oui, on fait des paris. On s'amuse, c'est joyeux, on pique-nique, voilà.
Je sais qu'il y a un gagnant de The Voice que vous aimez particulièrement, c'est Kenji Girac.
Ah, Kenji, oui.
C'est quoi votre chanson préférée de Kenji ? Celle-ci ? Ou alors c'est celle-là.
Ah ouais, c'est celle-là.
Ça a été tout de suite, vous avez vu, Jeanne.
Tout de suite.
C'est Gwen Royal, c'est Gitano, c'est comme ça. Ça, c'est au réveil le matin pour se donner un petit peu d'énergie.
Non, mais à l'occasion, ouais, j'adore. Ouais. C'est joyeux, c'est chaleureux, ouais. C'est tout, quoi, il y a tout.
Vous êtes l'une des politiques, Ségolène Royal, à toujours avoir beaucoup parlé sur la télévision. Je sens qu'en 90, oui. Vous aviez critiqué quand même la violence de certains programmes. Mm-hmm. Vous étiez aussi attaqué. Ça s'est pas arrangé. Vous étiez aussi attaqué à la violence des mangas japonais diffusés à profusion à l'époque dans le Club Dorothée. Si bien que beaucoup vous tiennent encore pour responsable aujourd'hui de la suppression de cette émission.
C'est incroyable.
Une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est vous, Ségolène Royal, qui avez ou pas la peau du Club Dorothée ?
Absolument pas. Parce que c'était les mangas japonais à l'époque. Mais vous vous rendez compte, là, le degré de violence s'est quand même effroyablement renforcé depuis. C'était le début, en fait, de la violence à la télévision. Et ces images d'extrême violence détruisent une partie de l'enfance. On n'a pas le droit de faire ça.
Donc, pour revenir à Dorothée, elle n'avait aucune raison de vous en vouloir.
Non, au contraire, ça fait presque de la publicité. Vous savez comment ça marche. Plus, ça fait plus de publicité à l'émission que le contraire.
Pour finir, elle a été supprimée, cette émission, mais bien plus tard. Elle a été
bien plus tard.
10 ans plus tard, mais comme vous étiez ministre à cette époque-là.
Non, et puis je trouvais qu'il devait y avoir des productions françaises. Pourquoi est-ce qu'on se laissait envahir par des productions japonaises ? Pourquoi il n'y avait pas de production de dessins animés aussi à la française ?
Allez, autre choix sur votre plateau télé.
Est-ce que vous regardez beaucoup la nouvelle télé, genre les plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou Apple TV ?
Assez peu. Netflix, si, j'ai regardé quand même quelques séries sur Netflix.
Lesquelles ?
Mais que tout le monde a regardé, je pense.
The Crown.
Je sais pas, The Crown, par exemple. Voilà, oui, c'est ça. Et quand j'ai du temps, je regarde les replays d'Arte. C'est extraordinaire. Arte, vous allez ici, je vais dans la case histoire.
Oui.
Et dans cette case histoire, mais c'est extraordinaire.
C'est la caverne d'Ali Baba pour moi.
C'est la caverne d'Ali Baba.
En ce moment, il y a le chantier de Notre-Dame en ce moment sur Arte.
Oui.
Ségolène Royal, vous dénoncez la cruauté de notre société. Elle n'est rien comparée à la cruauté de cette question.
Foutu pour foutu.
Foutu pour foutu, vous préférez qu'on réécoute votre célèbre lapsus sur la Grande Muraille de Chine ou, extrait plus rare, une autre expression revisitée par vos soins.
Mais là, le premier n'est pas un lapsus. La bravitude, tout le monde l'a tournée en dérision, bien sûr, gourde-bourde, comme j'expliquais tout à l'heure.
On l'écoute.
Mais c'est absolument pas un lapsus, c'est volontaire.
On va l'écouter.
C'est un beau symbole, comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille, n'est pas un brave, et qui vient sur la Grande Muraille, conquiert la bravitude.
Elle vous a valu bien des moquitudes, cette bravitude.
Mais oui, ça reste.
Pourtant, vous dites
c'est comme la scène colère. Qui peut se targuer d'avoir inventé des mots qui restent
voilà, néologisme
du bon côté. Mais c'était parfaitement volontaire, la bravitude.
Comment d'abord, ça,
c'est un mot en vieux français qui existe. Et d'ailleurs, j'ai été défendu à propos avec la comparaison sur la négritude. C'est Jean-Pierre Chevènement qui a dit, mais pourquoi on se moque d'elle ? C'est l'invention des mots aussi, et par où la réinvention, réinvention d'un mot.
Vous faites exprès au moment où vous le dites, ou c'est quand même
non. Ah non, je le fais exprès. Bravitude, oui, je connais ce mot-là, et bien sûr.
Ségolène Royal, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Un petit blind test de générique télé. Vous pensez vous souvenir des génériques télé de votre enfant,
c'est possible.
De votre adolescence ?
C'est possible.
On va voir ça, on joue tous ensemble. Au Jukebox.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL. Jukebox.
Et aujourd'hui, c'est un blind test de générique télé qui vous concerne, Ségolène Royal. Vous allez devoir tenter de reconnaître ces génériques plus vite que Jade. Généralement, ça laisse une petite marge de confort.
Oui, voyez mon niveau, vous avez compris.
Mais encore, parfois, il nous réserve bien des surprises.
Oui. Parfois, je suis surprenante.
Ce match se dispute en 5 points. Vous jouez aussi, naturellement, vous tous qui nous écoutez. On commence avec un feuilleton de votre enfance.
Oh, ben non, c'est la foule, la foule, la foule, la foule.
Le Je l'avais aussi, évidemment.
Oui.
Vous regardiez pour les intrigues de Thierry Lafronde ou pour le beau Jean-Claude Drouot et son
le
collant
Leggings? Le beau Jean-Claude Drouot, bien sûr.
Ce collant n'allait pas à tout le monde.
Ce collant n'allait pas à tout le monde.
Mais lui, oui.
Elle est beaucoup moins vive que Thierry Lafronde. Autre programme culte de votre enfance.
Ah oui, bonne nuit les petits.
Nounours, Pimprenelle et Nicolas.
Nounours.
En route, Nounours.
En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves.
La voix de Nounours dans Bonne nuit les petits. Vous obéissiez vraiment à Nounours. Vous alliez vous coucher.
J'ai obéi à Nounours.
Ouais. Et le marchand de sable.
Vous aussi, j'ai vous obéissiez au Nounours ou pas?
Bien
vous
sûr.
Vous immédiatement après.
Alors moi, j'avais quand même Pimprenelle et Nicolas pour mettre ma brosse à dents.
Ah, pas mal. Ça existait déjà les goodies à l'époque.
Oui.
Dis donc. C'est en bois.
Agréable.
C'est Ségolène Royal parmi les héros de votre enfance. On pourrait aussi citer deux autres poilus. Le chien Pollux du Manège Enchanté.
Ah oui.
Ça vous regardiez.
C'est très réussi, ça, oui.
Puis Belle de Belle et Sébastien.
Les Belles de Belle et Sébastien, tellement mignon.
Il y a un autre animal que vous avez regardé à la télé, mais un peu plus tard. Il s'agit cette fois d'un dessin animé.
C'est des méthanes.
Bravo, on peut appeler Ségolène Royal, des méthanes. Alors en fait, ça n'a aucun rapport avec la pollution. Hein.
Il faudrait repasser ce dessin animé.
En fait, c'est l'histoire d'une petite grenouille chassée de sa mare par des tritons affamés. Ouais. C'était dans les années 80, c'est pas parce que vous êtes resté une grande enfant que vous regardez
ça. Non, je regardais avec mes enfants surtout.
Ah, c'est ça,
voilà. Ils étaient fascinés, c'était tellement joli.
Place maintenant à un programme plus récent, une série. On est
Plus belle la vie.
Non, mais ça reste tellement dans la tête.
Ah bah oui, ça a duré quand même quelques années. Ouais. Là encore, je crois que c'était plus vos enfants
qui regardaient ça. Oui, mais je regardais avec parce que ça permet après de parler.
Ouais, mais n'empêche, vous vous souveniez pas du nom de cette série parce que dans votre petit questionnaire que vous avez gentiment rempli, vous avez écrit une série qui se passait à Marseille.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que j'ai eu le nom.
On a dit que c'était Plus belle la vie. Hein. Est-ce que c'est aussi vos enfants qui vous infligeaient Sous le soleil? Vous regardiez Sous le soleil?
Oui, j'ai regardé Sous le soleil avec eux, oui.
Vous êtes laissé prendre au jeu?
Oui.
Des intrigues amoureuses?
Oui, oui, je trouvais que c'était bien fait.
C'était le samedi après-midi, ça, non?
C'est le samedi après-midi.
Ah bah, je peux vous le dire, regardez aussi.
Ah non, bah, ça m'est arrivé comme tout le monde. Hein.
Tout le monde dit ça, c'est comme la presse People. Personne ne l'a dit, mais tout le monde sait ce qu'il y a dedans.
Oui, alors moi j'avoue.
Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans?
C'était tranquille, c'était joyeux.
Il se passait des trucs chez les autres, c'est ça.
Il se passait
ça,
des trucs chez les autres, on pouvait discuter, t'as vu celle-là, t'as vu comment elle habille, ah oui, comment, mais pourquoi, oui.
Ah mais quelle est mauvaise, et voilà.
C'est agréable de voir les embrouilles chez les autres, il y en a assez
les
comme ça dans le monde de la politique.
Non, c'est charmant.
Attention, dernier générique à reconnaître, cette fois une émission que vous regardiez.
Ah oui, 7 sur 7, ouais.
Magazine dominical d'Anne Sinclair, oui. Ne loupiez jamais.
Jamais.
Et alors, quand vous ne le regardiez pas, vous y étiez, en fait, Ségolène Royal. Vous avez aussi été invité, évidemment, de 7 sur 7. D'ailleurs, Anne Sinclair vous posait parfois des questions bizarres.
C'est vrai que vous pouvez reconnaître 200 races de champignons?
Oui, tout à fait.
Vous pouvez m'en citer trois, là?
Bah, la manie de phalloïde, la manie aussi, de mouche.
Comme quoi, elle allait vraiment sur tous les sujets, Anne Sinclair.
Tous les sujets.
Même les races de champignons. C'est vrai, ça, d'ailleurs?
Oui, c'est vrai.
On va vous demander de le faire parce que bon, il y a Ophélie Meunier qui attend derrière.
Oui.
On va peut-être vous inscrire à France, un incroyable talent. Parce que c'est rare tout de même. Et bravo, on l'applaudit. C'est Ségolène Royal qui remporte ce quiz des génériques télé, même si Jade s'en est très bien sortie.
Ah, merci Eric. Ça vous fait plaisir?
Non, ça me fait un peu de peine, mais mon honnêteté m'oblige à le dire.
Ségolène Royal, merci beaucoup d'être venue nous voir. On vous retrouve en librairie avec ce livre paru aux éditions du Rocher, Refuser la cruauté du monde, que vous pouvez tenter de gagner dédicacé par Ségolène Royal sur le compte Twitter dont Refait la télé.
On revient samedi prochain à 11h30 avec celui qui se souvient sans doute très bien de votre petite danse avec Jamel sur le plateau du Grand Journal. C'est Michel Denisot qui sera avec nous. À bientôt Ségolène Royal.
À bientôt.
Le replay de cette émission est à retrouver sur l'appli RTL et tous nos bonus et vidéos sur nos réseaux sociaux. On vous laisse avec le journal inattendu d'Ophélie Meunier qui reçoit aujourd'hui Danny Boone. Très bon week-end sur RTL. Ciao, ciao.
Salut.